vous écoutez Patrice Perrin, l'amoureux des lettres, pour son émission au Café Littéraire. Bonjour, vous êtes bien avec Patrice Perrin, l'amoureux des lettres, sur Radio B 90 FM, la radio des bonnes ondes, pour son émission au Café Littéraire, celle du mois de novembre. Et j'ai envie de vous parler déjà de trois romans irlandais, l'Irlande autrement, et puis ensuite des recherches d'identité, parfois douloureuses, là aussi trois romans qui parlent de cette recherche d'identité. Alors je commence par le premier roman de John Banville qui s'appelle « Neige sur Ballyglass Ouse » qui est paru aux éditions Robert Laffont. Ensuite, il y aura le livre « Un récit » de Bernard Bérou, « Frontières » au pluriel, « Frontières d'Irlande » édité par Le Mot et Le Reste. Et puis un troisième roman qui est un vrai roman, « John Sherman » du grand William Butler Yeats, édition La Coopérative, William Butler Yeats est le plus grand poète irlandais du XXe siècle. Voilà. Ensuite, il y aura « Tenir sa langue » de Polina Panasenko, une Russe entre deux cultures, édité par les éditions de l'Olivier, que je salue. Monsieur Sénégal de Antoine Roux, édité par Plon, très difficile, en lutte avec beaucoup de préjudices monstrueux. Concernant la couleur de la peau, de sa peau, puisqu'il est noir, cela se passe en 1919 dans le Doubs. Puisque j'ai parlé de l'Afrique, j'enchaîne avec « Ainsi pleurent nos hommes » de Dominique Sélis, édite aux éditions Philippe Ray, et puis éventuellement à la fin, « Moi en plus beau » de Guillaume Letouze, un auteur que j'aime beaucoup, chez Actes Sud. Voilà, donc je reviens au premier roman, celui de John Banville, « Neige sur Ballyglass Ouse », édité par Robert Laffont. Ce nouveau roman de John Banville se déroule en Irlande, dans un village situé entre Wexford, donc au sud, enfin au sud-est, entre Wexford et Enniscorthy, le long de la rivière, mais enfin c'est plus un fleuve qu'une rivière, puisque le Slaney se jette dans la mer, dans la Manche, à Wexford. Deux époques. La première se déroule en 1957. Après la découverte du cadavre émasculé d'un prêtre populaire et très respecté dans une maison, dans la bibliothèque de Ballyglass Ouse, le manoir, un manoir qui porte ce nom, à côté d'un village qui s'appelle Ballyglass Ouse, dans un manoir de l'énigme famille Osborne. Je vous en parlerai de cette famille Osborne. C'est une affaire très délicate qui a été confiée à l'inspecteur Strafford, Saint John Strafford, qui est venu tout spécialement de Dublin pour mener l'enquête. Difficile, car il y a toujours à cette époque-là des rivalités entre catholiques et protestants. Et surtout, il va découvrir, et nous on découvre, qu'il y a plusieurs coupables possibles, et puis de nombreux secrets, des choses qui ne sont pas dites. Alors quand même, une lueur va commencer à percer grâce à Rosemary Lawless. Rosemary Lawless est la sœur de Tom Lawless, qui est le nom, qui est le prêtre assassiné à Ballyglass Ouse. Et l'inspecteur apprendra que cet homme, Tom Lawless, cet homme, notre Tommy, comme on l'appelait enfant, qui a eu droit à tout, affection des parents et des études qui vont lui permettre de progresser et de faire des études même brillantes. Et non la fille. Les filles, à cette époque, n'allaient pas à l'université. Donc, elle a un peu de rancune face à ce qu'on a fait pour Tommy, rien pour elle. Leur père était John Joe Lawless, Gigi Lawless. Alors, c'est un personnage notoire de la guerre civile, un des plus solides partisans de Michael Collins, le leader de l'IRA. Voilà, ça vous dit quelque chose, l'IRA. Un meneur impitoyable des escadrons de la mort, du Big Fellow, et Gigi a été condamné à mort par pendaison, parce qu'il a été arrêté. Mais il a été épargné grâce à l'intervention directe du Premier ministre britannique, car il devait servir aux négociations du traité anglo-irlandais qui mettra fin à la guerre. Alors c'est un lourd héritage que d'avoir ce père. Pour Tom, qui est en rupture avec son père et qui s'est engagé dans la prêtrise et non dans le droit et devenir avocat comme son père. Alors cette enquête chamboule les convictions de Strafford. Il se pose la question, est-ce le mal qu'il avait fini par rencontrer ici, dans ce manoir ? Il n'avait jamais cru au mal comme une force en soi. Le mal n'existait pas, avait-il toujours affirmé. Et pourtant, il n'y avait que des actes malfaisants. Or, avec cette affaire, il sera vraiment confronté avec le mal, personnifié en la personne de ce prêtre assassiné. Il est convoqué à Gorée, qui est un peu plus au nord, mais pas encore en mi-chemin avec Wexford et puis Dublin. À Gorée, il est convoqué par l'archevêque qui suit ce scandale, un prêtre donc catholique assassiné de telle façon aussi, c'est un scandale, et qui lui demande non pas vraiment d'étouffer ce crime, mais de le mettre sous silence, enfin de ne pas faire de tapage dessus. Sinon, eh bien, sa carrière de flic peut-être peut en pâtir. Car voici de grandes réflexions. L'humanité est incapable de supporter trop de réalité. Voilà, donc il faut la mettre sous silence, cette réalité. Selon M. Eliot, mais aussi tout finit par se savoir, un jour ou l'autre, selon un écrivain Chaucaire. Alors John Bonville se sert maintenant d'un interlude qui se déroule l'été 1947, soit 10 ans avant 1957, et qui laisse parler Tom. Donc on découvre Tom, son parcours d'enfant qui a été maltraité par son propre père déjà. Induit en erreur, traumatisé. Et lorsqu'il devient jeune prêtre, il va à Rome rencontrer Pie XII, le pape Pie XII, donc c'est cette époque-là. Il sera retrouvé après, au début ça se passe bien, hein, ça se déroule bien, mais il y a un quartier libre et il est entraîné par un mauvais larron qui est comme lui, mais qui va l'entraîner dans une maison de débauche. Alors on va le retrouver, ce jeune homme, en mauvaise posture, Donc ce sera un scandale, alors il est rapatrié sur l'Irlande vite fait. Et l'archevêque, qui est au courant et qui veut cacher un petit peu, dissimuler ce scandale, le nomme aumônier prêtre, prêtre aumônier, de la maison de correction Cariclea, située dans un haut marais à proximité du mont Néfin, la deuxième plus haute montagne de la province de Connacht. Donc là, Cet homme se trouve à la tête d'un troupeau composé de frères et puis de jeunes garçons. Tous sont prisonniers de ce lieu qui forme une caserne. Tom sait bien qu'on ne doit pas avoir de favoris, de faire attention au péché de la chair. Hein. Il ne faut pas, mais voilà, le mal est là. Et pourtant, cela commence insidieusement avec un jeune rouquin au cours de la fête Dieu. Voilà. Alors qu'on doit se déplacer pour la fête Dieu, en cérémonie. Et c'est bien le diable qui agit en lui. Le diable qui avait dit à Adam et Ève, mais à bien d'autres aussi, « Vous serez comme des dieux ». Car il se justifie pleinement, cet homme se justifie pleinement, et on assiste à une perversité narcissique selon les psychiatres. Car c'est au nom du Christ, soi-disant, fier de lui, que Tom va pervertir durablement ce jeune rouquin qui est Dominique, le fils du colonel Osborne, qui était un héros de Dunkerque. Qu'il ignore complètement cette relation pervertie. Mais aussi, il y aura d'autres garçons, comme Welche Foncé, qui, d'après l'enquête, a tué Jenkins. L'inspecteur avait un adjoint, qu'il n'appréciait pas trop, mais qui a bien fait son métier, et qui a retrouvé le couteau utilisé par Foncé pour émasculer le prêtre, et qui se jettera, Welche Foncé, il va tuer l'inspecteur, le deuxième, l'adjoint de l'inspecteur, mais il se jettera dans la mer sur la plage de Ravenpoint. Tout comme le jeune disparu, Lawrence Radford, le fils pourtant aimé, du shérif Laurent Stratford, qui avait disparu et qu'on va retrouver repoussé par la mer justement sur cette plage de Ravenpoint. Lui aussi a été perverti par Tom Lawless. Et la seule à connaître la vérité que l'on va soupçonner à la fin de ce roman, Letty, c'est Letty, ou Laura, elle se fera appeler par la suite Laura, la fille du colonel Osborne, c'est-à-dire la sœur de Dominique, qui détestait totalement ce vilain personnage de Tom Lawless. Elle avait découvert que son frère était perverti. Cela se passe dans cette jeune nation, la République d'Irlande, mais nous savons nous aussi qu'il y a eu des cas, peut-être pas jusqu'au meurtre, mais quand même semblables de perversion en France. Voilà pourquoi je tenais à parler de Neige sur Ballyglasshouse de John Banville, édité par Robert Laffont. Et puis, je parle d'un deuxième roman. Frontières d'Irlande, en fait, c'est un récit édité par Le Mot et le Reste. C'est de Bernard Béroux, qui partage sa vie entre la Bretagne et l'Irlande. Il a fait plusieurs fois le voyage entre l'un et l'autre. Il vit en Bretagne, mais il aime partir en Irlande. Et cette fois-ci, dans ce récit, il explore l'Irlande en visiteur attentif en septembre 2018. Donc ce n'est pas très très loin de nous. Deux cartes sont jointes à cette édition pour bien montrer son périple et les rencontres qu'il fait. Dans la première, nous allons de Cork, au sud de l'Irlande, jusqu'à Sligo. On monte jusqu'à Sligo. En passant par Limerick, joindre Le Clare, un comté attractif par excellence, que Bernard Bérou aime beaucoup, il y va assez souvent, il a fait des rencontres qu'il cite dans ce récit, que je vous laisse découvrir. On va à Kilgogan, Castel, un lieu important. D'ailleurs, il y a un poème que je peux vous lire, parce que c'est là que Yeats, William Butler Yeats, a écrit ce poème, ce début de poème, qui dit « Sous la lumière déclinante d'octobre, l'onde reflète un ciel paisible sur les eaux débordantes parmi les pierres grises se promènent 9 et 50 cygnes. » Voilà, un petit clin d'œil à Yeats avant d'en parler un peu plus tard. Donc, voilà. Calgué aussi, qui est un lieu important, Tuane, et remonte vers Sligo, une étape importante, car c'est à partir de là, du Donegal, que l'on aborde vraiment les frontières entre l'Irlande du Nord et la République irlandaise. Séparés le plus souvent, mais j'y reviendrai, par une rivière. Donc sur la deuxième carte, on voit bien son tracé au lac d'Erg. Il y a un arrêt sur le lac d'Erg, car il y a un souvenir de Saint-Patrick très présent là. On va à Glady, à Omagh, à Lifford, Strabane, Derry, ville très importante avec les tragiques affrontements de cette guerre civile entre Irlandais du Nord et Irlandais du Sud, puis les Anglais qui se sont mêlés. Buncrana, Port Stevar, et enfin l'incroyable chaussée des géants. Guerre civile appelée trouble. Déambulant le long de la frontière, l'auteur recueille de nombreux témoignages parmi les communautés catholiques et protestantes, dans des villages coupés en deux par des rivières, sur des tronçons de routes atypiques ou au cœur d'enclaves extravagantes. À travers eux se dessinent d'autres frontières culturelles et sociales entre une génération marquée par l'influence du clergé, très importante, la ruralité, les tabous et les scandales récents, j'en ai parlé dans le roman d'avant, et une jeunesse désireuse de tourner la page et de vivre en paix dans un pays réunifié sur fond de Brexit qui pose une inquiétude. Cette remontée nous entraîne vers le nord de l'Irlande, dont jusqu'à Derry, le long de la frontière à l'origine d'un conflit, je le rappelle, qui fit 3500 morts entre 1968 et 1998. Et l'écrivain Bernard Shaw a déclaré que ce pays, l'Irlande, ce pays était une île, est une île, un continent et un village. Ce que confirme Bernard Bérou l'auteur de ces frontières d'Irlande, en s'attardant et même en tombant sous le charme de Pétigo, village blotti dans un paisible vallon, altière et coquette, presque inoffensive, respectable dans sa modestie, malgré les bombes et les tensions qu'elle a connues pendant les troubles. Elle a conservé un cachet suranné qui lui donne un air digne d'autrefois, un vrai bourg de campagne comme on les aime en temps de paix et que l'on peut comparer à un village du Cantal en France. Comment, c'est la question que pose Bernard Bérou, comment avait-on pu se haïr au point de faire couler le sang au milieu de tant de beauté? Un paradoxe étonnant de la nature humaine. Voilà pour ce beau récit, important récit de Bernard Bérou, Frontières d'Irlande, édité par Le Mot et le Reste. Et je passe au troisième roman irlandais, qui est vraiment un roman, là, qui n'est pas un récit. John Sherman, de William Butler Yeats, édité par La Coopérative. Cette édition présente, reprend, en fait, car c'est une réédition, reprend un frontispice plein de charme qui montre le portrait de William Butler Yeats, et c'est dessiné par John Singer Sargent, ce qui permet de se faire une idée à quoi ressemblait William Butler Yeats, jeune homme, il est très jeune. John Sherman, publié en 1891, est le troisième livre de Yeats et son unique incursion dans le domaine du roman. Ce roman est aux fortes résonances autobiographiques, voilà pourquoi c'est intéressant de le lire. Raconte l'histoire d'un jeune Irlandais rêveur qui, dans une petite ville de province, à Bala de Zellache, en fait il s'agit de Sligo dont je vous ai parlé dans le récit précédent. Sligo, au lieu irlandais. Vivant dans la seule compagnie de sa mère, ce John Sherman, il pêche et il cultive avec soin le jardin familial et cherche sa voie sans savoir comment mieux employer ses dons. Parce qu'il sait qu'il a des dons d'observateur, mais il ne sait pas. Donc cette jeunesse est heureuse, oisive aussi. Et elle est interrompue quand un oncle fortuné, courtier en transport maritime vivant à Londres, lui demande de venir travailler à ses côtés. Car le père de John Sherman est mort. Donc l'oncle se sent... Il faut qu'il fasse quelque chose pour son neveu. Donc il lui demande de venir travailler à ses côtés à Londres. John Sherman a une très très bonne amie qui s'appelle Marie Carton. Ils aiment dialoguer ensemble. Ils ont beaucoup de points communs dans leurs discussions. Ils sont vraiment très très amis, pas intimes, mais très amis. C'est une fille de pasteur. Et il lui pose la question, l'ayant vivement encouragée à accepter cette proposition, car elle voit bien que John Sherman tourne un peu en rond, et il part s'installer à Londres avec sa mère, bien sûr, il ne va pas abandonner sa mère, et son physique avantageux ne tarde pas à lui valoir les faveurs d'une riche héritière. Voilà, va pouvoir un fabuleux mariage. Margaret, la riche héritière, s'appelle Margaret Leland. Et le voici donc fiancé. Mais il se pose la question quand même, son destin est-il vraiment de s'intégrer à la bonne société victorienne, même s'il n'aime pas trop le travail qu'il doit faire à côté de son oncle, et que Margaret tente de le changer malgré lui. Et voilà, Yeats dans ce roman décrit avec une réjouissante ironie la vie artificielle des salons londoniens, des concerts, des rencontres que l'on peut faire, des bals aussi, avant de ramener son héros en Irlande. Voilà. Il va se séparer de sa fiancée, qui va trouver un autre prétendant. Et lui, ben, il va revenir en Irlande, dans son Irlande natale, où l'attend le véritable amour à Marie Carton qu'il retrouve. Le temps de purifier leur amour réciproque, car elle se pose des questions, est-ce qu'il ne revient pas déçu? Mais non, ils s'aiment vraiment tous les deux, et c'est un parcours initiatique qui contraste avec le réalisme de la partie anglaise du roman. Alors, à mesure que sa vocation mûrissait de Yeats, je parle de Yeats, et que ses premiers recueils de poèmes rencontraient la faveur croissante du public cultivé, le jeune auteur décida rapidement que sa voix se situerait exclusivement du côté de la poésie. Et si plus tard il se tourna aussi vers le théâtre, puis revint à la fiction en prose avec les histoires de la rose secrète, il aime beaucoup les roses qu'il cultivait, en 1897, ce fut dans le prolongement direct de son œuvre poétique. Voilà, j'ajoute que William Butler Yeats, qui est donc né en 1865 et mort en 1939, est le plus grand poète irlandais du XXe siècle. Il fut au cœur de la Renaissance celtique des années 1890 et s'affirma comme l'auteur d'une œuvre profondément personnelle fondée sur les grands mythes de l'imaginaire irlandais. Il reçut le prix Nobel de littérature en 1923. Et ce roman bénéficie d'une superbe traduction de Jean-Yves Masson, que je salue, Jean-Yves Masson. Et nous faisons une pause musicale avec Frédéric Chopin, comme vous savez que je l'adore, Frédéric Chopin, et une mazurka interprété par la grande Maria João Pires au piano. une bien belle musique. Voilà. Et donc j'aborde les romans sur l'identité. Et je commence par Tenir sa langue de Polina Panasenko, qui vient de paraître aux éditions de L'Olivier, que je salue. C'est pas toujours que je peux en parler, mais grâce à ce roman, je peux en parler de cette édition de L'Olivier que j'aime bien. Née à Moscou, Polina Panasenko est auteure au féminin, traductrice et comédienne. Voilà. Elle est devenue comédienne. Avec ce premier roman, elle revendique le droit de porter le prénom qu'elle a reçu à la naissance. Sans le cacher, sans le maquiller, sans le modifier, sans en avoir peur, car un prénom, c'est le début d'une vie, le début d'une histoire et d'une identité à construire. Elle est née Polina. Mais lorsqu'elle débarque avec ses parents en France, elle passe par Paris, mais pour elle, il s'arrête à Saint-Étienne, et pour elle, la France, c'est bien Saint-Étienne et non pas Paris. Son prénom devient Pauline. C'est une gamine, c'est une enfant. Son prénom devient Pauline et elle apprend la langue française qu'elle aime à l'école. Pratique, elle est à l'école, elle est inscrite à l'école, elle apprend donc la langue française et elle devient Pauline. Mais au moment des vacances, en catimini, parce qu'il ne faut pas trop le dire, elle retourne à Moscou, retrouver la Russie de son enfance, celle de la datcha et de l'appartement communautaire où vivent des grands-parents inoubliable, qu'il adore. Et puis il y a aussi Tiotia Nina. Donc, tous les étés, elle retourne à Moscou. Et elle a l'impression de se dédoubler. Elle est Polina à la maison, il parle en russe, et elle est Pauline à l'école. Et cela, c'est assez difficile pour elle. Ce qui fait que 20 ans plus tard, alors que c'est devenu une belle adulte et qui fait du théâtre, alors qu'elle vit à Montreuil, elle a rendez-vous au tribunal de Bobigny pour tenter de récupérer son prénom véritable, Polina. Et après des démarches un peu laborieuses, elle va y arriver. C'est ce que vous découvrirez en lisant ce beau roman, ce simple et beau roman. Il n'est pas très très gros, « Tenir sa langue » de Polina Panasenko aux éditions de L'Olivier. C'est ce qui fait sa personnalité d'avoir deux langues, deux cultures, deux identités qui se mêlent étroitement et qui, pour finir, font sa personnalité. Avec force et authenticité, Polina Panasenko offre ce récit drôle et tendre de son histoire familiale et de son combat pour avoir le droit de porter son véritable prénom. Voilà pour ce premier roman sur l'identité. Et je passe à Monsieur Sénégal, le deuxième roman, d'Antoine Rowe, édité par Plon. On les appelle les tirailleurs sénégalais, voilà, les fameux tirailleurs sénégalais, qui ont quitté leur pays, le Sénégal, pour venir défendre la patrie, la France, et se battre pendant la guerre de 14-18. Et pourtant, Amadou Lo, qui est le personnage de ce monsieur Sénégal, de ce roman, Amadou Lo, 20 ans, n'est ni l'un ni l'autre tirailleur. Il ne l'est plus, car c'est la fin de la Première Guerre mondiale Il est démobilisé. Nous sommes en 1919. Il rêve de retourner dans sa Guinée natale, à Conakry, où pense-t-il attend sa famille. Seulement, le médecin-major Robert Desvaux, personnage ambigu, comme on le voit dans ce roman, qui lui a sauvé la vie et surtout son bras, il risquait d'être amputé d'un bras, donc ce médecin-major, médecin efficace, a réussi à sauver sa vie. Il a d'autres projets pour lui. Faire de son aide de camp, puisqu'il était devenu son aide de camp, si doux et docile, donc il appréciait beaucoup ce jeune homme de 20 ans, si beau avec ce visage de bronze et son élégance, il veut en faire son chauffeur personnel dans la vie civile. Car ce médecin-major, ce Robert Desvaux, est vraiment médecin et il va reprendre, c'était le métier de son père, d'être médecin dans ce village de Miré, dans le Doubs, non loin de Besançon. Donc, il trouve qu'il a besoin d'un chauffeur pour aller voir sa clientèle, visiter sa clientèle, la soigner, et c'est ce qui va se passer dans un premier temps. Amadou, qui ne peut rien lui refuser, se retrouve donc à Miré, dans le Doubs, où pratiquement personne n'a jamais vu de noir en vrai. Et après la guerre, un nouveau combat commence pour lui. Il loge dans une chambre, dans une mansarde, mais il est vraiment seul dans cette chambre. Un lit avec des draps, ce qui est nouveau pour lui, parce que même blessé à l'hôpital Lariboisière à Paris, où les infirmières étaient toutes dévouées pour lui, il était avec d'autres blessés dans la salle de cet hôpital Lariboisière, dans une des salles de cet hôpital Lariboisière. Et donc, dans cette belle maison ancienne du médecin-major Desvaux, il vit avec, va vivre avec sa mère, la mère de ce Desvaux, son épouse fort dolente parce qu'elle souffre, peut-être que son médecin de mari ne s'occupe pas assez d'elle, et Augustine. Alors Augustine, c'est la cuisinière qui a materné le médecin, mais qui va aussi materner Amadou, parce qu'Amadou est serviable, il a un très beau sourire, et donc elle va vraiment bien s'occuper de lui. Mais lui, qui est mahométan, on va l'entraîner à la messe le dimanche, dans l'église du village. On veut en faire un mirésien comme les autres. Ce qu'il n'est pas, il est toujours mahométan. Même s'il ne pratiquait pas beaucoup pendant la guerre, car il n'avait pas vraiment l'occasion de le faire, là il va un peu le faire. Et puis il y a la baronne, il y a une baronne qui sait que c'est un héros de Verdun et de Reims, mais elle veut en faire un serviteur stylé pour un déjeuner avec invitation. Elle va le payer, mais voilà, elle se sert un peu de son style, de sa beauté, pour en faire un serviteur stylé. Et les seuls qui vont vraiment gratuitement l'aider, ce sont tout d'abord Hélène, une gamine délaissée par sa mère Louise qui veut devenir une grande photographe et qui le deviendra réellement. Hélène a une gouvernante qui lui apprend l'anglais. Elle ne va pas trop souvent à l'école, d'ailleurs elle va même quitter le village pour aller en pension à Besançon. Hélène. Mais c'est avec Hélène que Amadou va commencer, parce qu'il veut quand même parlez bien français, pas petit nègre, hein. Parlez bien français, et c'est avec Hélène qu'il va commencer cette éducation. Et puis, quand il vient et qu'elle est partie, soi-disant en vacances, mais en pension, parce que sa mère veut un peu se débarrasser d'elle, elle va la mettre en pension à Besançon, eh bien, il est découvert, parce qu'il va dans le jardin, il est découvert par Monsieur Antonin, qui est l'oncle de Hélène, qui est un ancien professeur au lycée Henri IV de Paris, qui a participé à la guerre, mais complètement défait par cette guerre. Il a mal à la tête, il n'est pas... Mais il va apprendre le français, et comme un bon professeur, à Amadou, qui va devenir, il croit, il va devenir un bon français en pratiquant la langue de mieux en mieux. Mais voilà, des êtres aigris et mesquins vont lui tendre un piège. Et ce sera le scandale. Ils vont le faire boire, lui qui ne boit pas, lui faire manger du porc, lui qui ne mange pas de porc, et il se sera ivre, et tout le village sera scandalisé par ce noir saoul. Et il devra repartir en Guinée. Il pense que sa place n'était pas là-bas et que sa place n'était pas ici. Ou alors, bon, Antoine Roux, il pose la question. Antoine Roux, en bon historien, parsème son roman « Monsieur Sénégal » de ressentis, de préjugés monstrueux sur les Noirs et les Nègres, sauf en ce qui concerne l'art nègre, parce que Louise, la photographe, va utiliser la beauté de Amadou pour en faire de très belles photos, pour participer, comme Picasso et bien d'autres, à cet art nègre. Donc tout le monde voulait un peu l'utiliser. Monsieur Sénégal, dans ce roman puissant et sensible, Antoine Roux explore les thèmes toujours actuels de l'identité, de l'intégration et de l'émancipation aussi. Une réalité de notre histoire, lui qui était venu pour sauver la patrie. Alors il termine d'ailleurs dans ce roman par une chanson parmi les Sénégalais qu'on fit venir pour la revue le jour du 14 juillet 1919. Amadou a vraiment défilé à Paris au 14 juillet 1919. Se trouvait, la chose est connue, le suite de la chanson, se trouvait, la chose est connue, un grand gaillard à la peau noire, aux dents comme l'ivoire. Je vais vous conter son histoire dans cette chanson. D'abord, voici le nom de ce brave garçon, Amadou Lo. C'est le plus beau gars de tout la Mumba. Voilà, je termine pour clore ce haut roman par cette chanson ironique mais profonde aussi. Et voici un autre roman, un troisième roman. Ainsi pleurent nos hommes, de Dominique Sely aux éditions Philippe Ray. Né au Burundi d'une mère rwandaise et d'un père belge, Dominique Sely a passé son enfance au Rwanda, son adolescence au Congo-Kinshasa, puis 20 ans en Belgique où elle a été agrégée en philosophie. Elle vit au Rwanda qu'elle connaît fort bien depuis 10 ans. Et ce premier roman est une invitation à se reporter sur une carte pour voir et admirer ce Rwanda qu'elle nous montre, le pays aux mille collines florissantes avec le bleu intense de ce grand lac Kivu. Kigali, nous sommes en 2018 dans ce roman « Ainsi pleurent nos hommes ». de Dominique Sely. Nous sommes à Kigali en 2018 et depuis sa rupture avec Vincent, Erika, l'héroïne de cette histoire, vit sur un fil et écrit à sa sœur pour exorciser son corps d'un amour dévastation, un grand amour dévastation qui l'habite toujours, qu'elle a vécu avec Vincent. Elle raconte son histoire, mais également celle des êtres fragiles auxquels elle est attachée, qui eux aussi tentent de vivre. Avec James, son frère, son second Hand, Yamanzi aussi, le séduisant karatéka, avec qui elle va vivre quelque temps, maman colonel et tonton Damas, les cœurs débordants comme la mousse des bières décapsulées au bar l'église, c'est le nom du bar l'église. Ils reconstruisent une nouvelle famille qui illumine ce roman. Du Rwanda, où après le génocide des Tutsis, voilà, nous retrouvons le génocide des Tutsis dans ce beau roman, chacun a été forcé de tourner la page, car le Rwanda veut faire la peau belle. Dominique Sely montre que derrière la rhétorique officielle d'unité nationale, chacun a incarcéré ses peines à perpète, voilà, des blessures sans cesse ravivées lorsqu'on peut croiser les bourreaux d'hier au détour d'une station-service ou sur la rive calme du lac Kivu. Les deux amants sont hantés par le souvenir de leur disparu au cours des massacres de 1994. Les tantes d'Erika, toute la famille de Vincent qui est partie se réfugier en Turquie. Dans ce saisissant roman, la voix d'Erika, au rythme fiévreux, fait le récit d'un amour qui tente de résister à la fatalité tragique héritée du passé. Même lorsque Vincent se sépare d'elle, leur passion charnelle ne faiblit pas. Et c'est une femme vibrante de regrets, encore taraudée par le désir, qui rédige ces lettres splendides, puisque sur sa peau, rien ne veut s'effacer. Voilà un beau roman que ce « Ainsi pleurent nos hommes » de Dominique Sely aux éditions Philippe Ray. Et puisque j'ai encore 5 minutes, je peux parler de « Mon plus beau » de Guillaume Letouze, qui est paru chez Actes Sud. J'avoue, j'adore l'écriture de Guillaume Letouze, qui a gagné en profondeur pour écrire cette nouvelle histoire qui mêle 4 personnages originaux. Tout d'abord, Xavier, archéologue ferroviaire. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup, qui marche en pleine nature. Et puis, il y a Benoît, son jeune frère de 9 mois, autiste, très beau. C'est lui qui a eu toutes les grâces et qui lui ressemble, moi, en plus beau. Il est très entouré, ce Benoît, ce Xavier aussi, par leur mère, Bénédicte, pleine de tendresse, pleine de dévouement pour ses fils, et Benoît en particulier, lui montrant l'art de la danse, lui qui avait tellement de codes à maîtriser concomitamment, et qui, avant son mariage, était professeur de lettres, transmettant à plusieurs générations d'élèves sa passion pour les grands textes littéraires. Elle enseignait aussi le latin et le grec. Mais son éducation lui avait enjoint la modestie et ses ambitions se trouvaient sans doute ailleurs. Et lorsqu'elle va se marier, elle va se stabiliser et puis s'occuper surtout de ses enfants, de ses fils. Oui, Benoît observe le monde avec une acuité et une perception singulière. Ses troubles autistiques ont fait de ses deux frères des êtres inséparables. Voilà pourquoi c'est un beau roman. Bientôt, Clara apparaît dans la vie de Xavier. Clara, le quatrième personnage de cette histoire, est une universitaire de Paris, sauvée en marchant chaque jour que Dieu fait au jardin du Luxembourg, dans ce beau jardin du Luxembourg, envoûtée par les arbres magnifiques. Mais elle doit quitter Paris et elle va aller à Montpellier, enseigner à Montpellier, tout en habitant à Nîmes. Et c'est là qu'elle rencontrera Xavier, rêveur dans les jardins de la Fontaine. Il y a le passé de leur mère qui n'est pas très loin d'ici, mais je n'en parle pas là, vous le découvrirez dans le roman. Ils vont peu à peu, Clara et Xavier, dialoguer, marcher d'un même pas et s'aimer comme une évidence. Elle se pose une question et son enquête, pourquoi des écrivains reconnus prennent-ils un jour la décision de ne plus écrire? Et elle se pose sur le cas d'Italo Svevo. Vous savez, Italo Svevo, c'est l'auteur de La conscience de Zeno, chef-d'œuvre inoubliable. Eh bien, il avait écrit des romans qui ont eu un petit succès. Et puis, il a dû attendre 20 ans avant d'écrire son chef-d'œuvre inoubliable, La conscience de Zeno. Voilà. Benoît, de son côté, progresse, écrit des textes, des souvenirs, composés à partir d'un lieu et d'une photo. Il parle de leur père, de leur mère, qui est une présence, un refuge pour lui. Elle était une fontaine d'eau claire, dit-il, qui m'abreuvait de paroles et qui a décrit le monde pour lui, un monde auquel elle demeurait très attachée grâce aux trois icônes, les trois Simones. Je vous laisse découvrir ces trois Simones qui ont orienté sa vie de femme à Bénédicte, qui ont été pour elle un héritage qu'elle revendiquait. Tels sont les points de départ de ce roman aux inflexions d'enquête, en ces lieux perdus, ces ruines blotties dans les forêts, à la rencontre d'empreintes et d'objets qui à jamais témoignent des chemins parcourus, ceux qu'ils ont construits, ces chemins parcourus, ces chemins presque disparus. C'est ce que nous sommes devenus grâce à ces bâtisseurs de jadis. Et voilà, je termine par ce « Moi en plus beau » de Guillaume Letous, Actes Sud, roman, un beau roman, grave. Je vous dis à la prochaine fois, en décembre, j'espère que nous serons fidèles au rendez-vous. À bientôt donc.